Alors, vous savez qu'on est dans l'épître aux Romains. Je regrette chaque dimanche un peu plus d'avoir choisi cette épître. Hein. Franchement. Non, non. Elle est super, mais c'est en fait très compliqué à faire le dimanche matin, par tout petit bout, parce qu'il faudrait pouvoir enchaîner heure après heure, sans arrêt, des choses qui se suivent. Alors, j'ai décidé de faire un résumé de 2-3 chapitres, à un tout petit moment court, mais important. Et puis, je suis content qu'il n'y ait pas de gens trop jeunes ou pas d'enfants ce matin, parce que je vais utiliser un mot assez vulgaire et grossier qu'on n'ose pas utiliser normalement. Ouais, le petit n'est pas là. Mais ça va, vous êtes tous bien assis et préparés à un choc. J'aimerais vous parler du péché. Je l'ai dit. C'est un des rares derniers mots qui offense de nos jours. Mais dans les chapitres, on a vu jusque le début du chapitre 1, mais la fin du chapitre 1, le chapitre 2, et puis tout le chapitre 3. Après, on reprendra pied dans le 4 en détail. En fait, ce que Paul va développer en détail, c'est que tout le monde est pécheur. Bon, ça, on le sait tous, hein, parce que de nos jours, on le dit autrement, on dit « personne n'est parfait ». C'est plus sympathique à dire. Mais en étudiant ce sujet, mais aussi j'ai été conduit récemment à aider quelques personnes qui ne sont pas de notre église et pas de la région, et qui vivent une situation déchirante, difficile et troublante. Et j'ai été confronté avec les conséquences néfastes, le mot est gentil, de choses qu'on prend à la légère. Ouais, c'est du péché, mais c'est pas grave. Parce que la culture dans laquelle on vit nous le présente de façon adoucie, allégée, c'est acceptable, etc. Mais quand on voit ce que ça produit dans la vie des gens et par effet domino, l'effet papillon, mais dans le sens négatif, j'étais vraiment bouleversé de voir ça en me disant, mais tiens, c'est le résultat d'idées qui me dérangent pas trop, de pensées que je trouve cool, de façons qui m'ont l'air, ouais, après tout, il faut pas être trop, etc. Mais quand finalement on voit ce que ces idées, lorsqu'elles aboutissent jusqu'au bout, hein, ce que ça produit dans la vie des gens, j'étais en colère. Pas contre les gens du tout, mais d'abord contre moi, parce que je me disais, c'est incroyable comme je me suis laissé endormir d'une certaine façon. Hein, vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on met dans la casserole et puis on met l'eau doucement, et puis petit à petit ça se réchauffe, elle est bien, puis elle se fait cuire avec. Et puis de réaliser à quel point je ne pouvais pas considérer le péché comme quelque chose de parfois acceptable, parce que finalement, justement, on est tous pécheurs. Effectivement, on est tous pécheurs. Hein, personne n'est parfait. Mais c'est une saleté. C'est méchant. Ça fait du mal. Ça détruit. Et les gens en souffrent réellement. Et puis, je vais être assez bref ce matin. Pas parce qu'il y a d'autres choses, mais parce que c'est comme ça. Et je sais que pour moi, j'ai été interpellé par cette chose et c'était triste. Enfin, j'étais triste qu'il ait fallu ces situations auxquelles je sois confronté et qui étaient douloureuses pour m'apercevoir que ouais, je suis peut-être trop tolérant dans ma façon de concevoir ces choses-là. Parce que bah, ça nous est présenté par la littérature, par les films, par l'ambiance générale comme des choses sympathiques hein, avec lesquelles même nous, on va plaisanter, hein, on trouve ça amusant parce que c'est amené d'une certaine façon. Mais quand on voit ce que ça produit, c'est horrible. Et puis, j'aimerais vous lire une histoire. C'est une histoire vraie, ou pas vraie, mais vraie, parce qu'elle se passe, et qui se passe ici. Je vais même les lunettes. Voilà. C'est l'histoire de Monsieur X, pour garder son identité. Monsieur X est un homme respectable. Suisse de souche, bien entendu. Il a une activité professionnelle honorable et gagne convenablement sa vie. Il n'est pas riche selon les standards de son pays, mais il se considère lui-même comme aisé. Pas de signes ostentatoires, démesurés, de richesse, mais tout est comme il faut. Ces enfants ont réussi dans la vie. Il faut comprendre par là qu'ils ont des diplômes supérieurs aux siens, qu'ils gagnent encore mieux leur vie que lui, et que ça leur permet de se payer des loisirs coûteux et fréquents. Monsieur X est un chrétien évangélique affiché. Il fréquente une église le dimanche matin, mais pas tous les dimanches, bien sûr, car Monsieur X n'est pas un fanatique. Il est d'ailleurs fier d'avoir rompu avec l'approche stricte et rigoureuse de ses parents. Il aime se qualifier d'ouvert et tolérant. Parlant de tolérance, il est fier justement du dîner qu'il a organisé pour le soir même. Organiser est un bien grand mot puisque c'est sa femme qui s'est occupée de tout. Dans ce domaine-là, Monsieur X a des valeurs plutôt traditionnelles. Une femme exquise qui tient à merveille sa maison et dont il n'a pas à rougir lorsqu'il a des invités de marque. Bien sûr, depuis longtemps, son épouse ne lui fait plus le même effet que son assistante, la petite Islande, qui apporte son café le matin au bureau, surtout lorsqu'elle est à contre-jour devant la fenêtre. Ça permet de nourrir gentiment l'imagination. Mais bien sûr, il n'a jamais trompé son épouse. Il referme son ordinateur portable, satisfait. Les sommes coquettes qu'il a placées par l'intermédiaire des banques respectables de son pays lui annoncent des résultats plus que satisfaisants. Il est un brin gêné quelques secondes par les informations qu'il a reçues récemment d'un magazine humanitaire qui explique comment ces mêmes banques, en spéculant sur les denrées alimentaires de base, provoquent des famines dans le tiers-monde. Mais bon, on n'est même pas sûr que ce soit vrai, et puis c'est loin d'ici. De toute façon, il donnera un peu plus aux associations caritatives qu'il soutient déjà. Il est temps de se préparer à recevoir son invité, Monsieur un homme exquis qui lui a permis par ses contacts et ses idées de progresser professionnellement, mais aussi dans sa vie personnelle. Il lui a, comme on dit, élargi l'esprit. Il l'a aidé à se détacher des idées étroites qu'il avait héritées de son éducation stricte. Il sourit, content de lui, en pensant à l'une des phrases préférées de Monsieur P. Ce que personne ne sait ne fait de mal à personne. Et si en plus ça me fait plaisir. Seule ombre au tableau, c'est la réputation sulfureuse de Monsieur P. Il paraît qu'ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres familles, il a commis des choses horribles. On parle de vol, de manipulation, de choses sordides avec des enfants. Il paraît que sa fortune vient en partie d'argent blanchi, drogue, trafic d'armes, de guerre. Mais bon, Monsieur X remue la tête pour chasser ses pensées sombres. Non, il présente tellement bien, ça peut pas être vrai. De toute façon, je garde le contrôle dans ma maison, c'est moi qui juge, et il ne m'a jamais rien fait de mal. Personnellement, je n'ai pas à m'en plaindre. On verra le moment venu. 5 ans plus tard, l'extrait du journal Le Matin. Un fait divers tragique dans la région de... Hein? Nous apprenons que Monsieur X, un homme respectable, apprécié de tous dans la petite ville où il vivait depuis toujours, s'est donné la mort après avoir abattu sa femme. Les enquêteurs ont découvert que depuis quelques années, il était impliqué dans des réseaux financiers illégaux, ainsi que des réseaux de prostitution de luxe, trafic d'armes, etc. Les voisins choqués ont déclaré que c'était un homme charmant et apprécié de tous. Je me suis amusé en écrivant cette histoire-là. Amusé, c'est pas le mot, hein, mais tout simplement parce que je pensais au nombre de fois où je me J'étais bien avec des idées. Je sais ce qu'elles produisent au bout, mais moi, je les garde gentilles. Je les garde à un niveau où, ouais, c'est pas méchant. On en plaisante, on en rit, c'est culturel, c'est amusant. Mais si on veut que l'évangile soit une bonne nouvelle, c'est ce que ça veut dire, hein, bonne nouvelle, il faut qu'on comprenne réellement à quel point le péché est une saleté. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'était, je pense pas, mais cette interview de Mel Gibson. Alors, je n'ai pas discuté sur le film, on aime ou on n'aime pas, mais quand il avait fait La Passion du Christ, ce film très violent, et puis on lui demandait si en tant qu'acteur, il n'avait pas eu envie de jouer dans ce film-là. Et puis il dit, mais je suis dans ce film-là, on vous a pas vu. Il dit, si, dans le film, on voit un moment des mains qui clouent Jésus sur la croix. Puis il dit, ça, c'est ce que j'ai joué ce rôle-là, c'est mes mains. Je lui dis, bah, pourquoi vous avez choisi ce rôle-là? Et puis dit parce que j'ai compris en faisant ce film en particulier que c'est mes péchés qui ont fait ça à Jésus. Et puis je trouvais, après, il a la vie qu'il a, c'est pas le sujet, hein, mais j'étais impressionné par cette réponse parce que je pense pour la plupart d'entre nous ici, on a été éduqués avec une bonne morale, on a assassiné personne, on vole pas ou pas trop, peut-être un peu avec les impôts, mais enfin, je veux dire, on n'est pas des truands. On fait rien d'horrible, on n'est pas. Hein. Et on a une vision soit légaliste du péché, fausse. Hein. À une époque, le péché, c'était la longueur des jupes, des cheveux, la musique qu'on écoutait, ces bêtises-là, qui n'ont rien à voir avec le péché. Ou alors, une vision fausse dans l'autre sens. Il hein. n'y a rien qui est grave, quoi. On plaisante de l'adultère, ouais, c'est rigolo, quoi, surtout si c'est un homme, et puis que la fille est jolie, et puis que on plaisante de situations qui font que des gens ailleurs meurent de faim. On est familier avec ces choses-là, c'est pas mal, c'est juste pas très cool. Et on réalise pas que ces choses-là font que le monde est ce qu'il est et qu'il y a une souffrance terrible, jusqu'au jour où finalement ça nous rattrape d'une façon ou d'une autre. Et là, on se dit, mais c'est une horreur, c'est terrible. Et puis je me dis, mais j'ai invité cette personne-là, si on l'appelle, chez moi, j'ai mangé avec, parce que tant que ça m'apportait que du confort à moi, ça m'aidait à atténuer ma mauvaise conscience, ça me permettait que ce soit un peu plus agréable, un peu plus facile, un peu plus cool, ça ne me gênait pas. Hein. j'avais eu cette réflexion, ben, sous une autre image. J'ai un des grands-pères d'Anne-Marie qui est mort tué par l'alcool. Bon, il avait dû quitter son pays, venir ici, il avait une vie difficile, et puis ben, quand il a arrêté de travailler, il a continué de boire. Et puis tellement que ça a détruit son foie, il en est mort. Et j'étais frappé parce que le jour de son enterrement, ben, après la cérémonie, il y avait un repas, comme ça se fait, hein, et puis tout le monde buvait, puis c'était rempli de gens bourrés qui buvaient. Et je me disais, j'avais tout le long, je ne pouvais pas me débarrasser de cette idée. C'est comme quelqu'un qu'on aimait s'est fait assassiner, on a invité l'assassin, et puis on est tous là à lui taper dans le dos. Hey, cool, hein, tu vas bien? Ah, ça fait plaisir de te voir. Hein. Je me disais, mais c'est horrible comme pensée, quoi. Hein. Imaginez quelqu'un a tué votre femme, votre fille, votre père, votre mère, quelqu'un que vous aimez. Vous allez à l'enterrement, vous pleurez, et puis après, vous faites un repas, et puis vous invitez le gars qui l'a tué. Et puis vous. Hey. Ça, c'est un mec bien, hein. Vraiment, on est content que tu sois là. C'est choquant comme idée, hein. C'est pour ça que je le dis. C'est le but de mon histoire. Mais j'ai réalisé que c'est ce que je faisais régulièrement. Oui, je trompe pas ma femme, mais il y a des pensées que j'aime bien entretenir, parce qu'il y a des livres que j'aime bien lire, parce que il y a des. Ben non, mais je fais pas mourir les enfants de faim, mais je prends ces décisions-là qui font que. Non, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Mais. Je réalise pas à quel point le bout, c'est la mort, hein. Pas juste la mort physique. Et quand finalement, d'une façon ou d'une autre, ça nous frappe, qu'on soit coupable directement ou non, c'est pas la question, hein. C'est pas une question de jugement, mais c'est que parce qu'on réalise pas à quel point, un, nous sommes tous réellement pécheurs, pas juste, pas parfaits, et à quel point c'est méchant, mauvais et destructeur. Du coup, ce que Christ nous offre, c'est gentil, c'est un petit complément, c'est un petit plus, hein. C'est comme si j'ai déjà un bon travail, etc. Et puis on me propose une petite activité complémentaire, sympathique. C'est bien. Au lieu de partir une semaine au ski, je partirai une semaine et demie, quoi. Mais ça enlève de la valeur. Si quelqu'un meurt de faim, littéralement, meurt de faim, ça existe, hein, des gens qui ne peuvent pas manger et qui en meurent, et qu'on leur apporte un repas. La valeur. Pour moi, si on m'offre du pain en sortant du culte, ben, je serais content, j'ai économisé 3 francs, ça change pas ma vie, quoi. J'ai réalisé à quel point, je vous parle pour moi parce que ça m'a interpellé, quoi. Je réalisais pas. Ouais, je parle de la grâce de Dieu, pardon, péché, vas-y, blablabla. C'est super. Puis je sais que je suis pas quelqu'un de parfait, et je le sais que trop bien. Mais je réalise pas à quel point je fais des compromis tous les jours. Pas dans le sens où je pourrais être meilleur que ce que je suis, c'est pas, j'en suis pas capable, hein. Mais au niveau de ma conception, de ma tolérance, du fait que j'invite des pensées, des actes, des choses à manger avec moi, en me disant, ouais, quand même, faut pas être coincé, quoi. Il n'est pas question ici de devenir du tout légaliste, ça n'a rien à voir. mais de réaliser que chacune de ces choses-là, c'est ce qui fait que Christ a dû mourir, d'une part, mais c'est aussi ce qui fait que nous souffrons, que les gens que nous aimons souffrent, que d'autres souffrent, et puis que ça détruit, et que c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est sur cette compréhension-là que le message de cette bonne nouvelle prend sa vraie dimension. Et c'est pas de la dramatisation pour qu'on ait l'impression que, c'est pas une technique de vente, vous savez, comme la publicité qui vous persuade que vous avez besoin de quelque chose dont vous n'avez pas besoin pour que vous soyez content quand vous l'avez acheté, mais vous n'en aviez pas besoin. C'est pas du tout ça. Là, c'est que la situation, elle est réelle. Mais on l'a tellement habillé, hein, avec des habits sympathiques, que il faut du temps avant que derrière les habits sympathiques, on s'aperçoive qu'il y a un monstre qui est là, et puis la seule chose qu'il veut, c'est notre mal. Lorsque Jésus dit, hein, le voleur est là pour voler, égorger, détruire, c'est des métaphores qui ne touchent plus trop aujourd'hui, parce que plus trop dans un pays où les voleurs rentrent pour prendre tout ce qu'on a, égorger et nous amener en esclavage, nous et nos enfants. C'était leur contexte culturel à eux. Mais la réalité est toujours la même. Alors, pourquoi je dis ça ce matin? Pas pour qu'on parte tous accablés parce que tout est noir et il n'y a rien qui va et c'est sombre, c'est horrible, hein? Mais c'est parce que justement, en comprenant ça, on réalise la valeur de ce que Christ nous a offert, hein? Dans l'épître de Jean, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc nous avons, ça c'est la bonne nouvelle, un antidote efficace, réel, mais qui agit que sur ce que nous déclarons être un péché. Or, dans ma vie, il y a tellement de choses qui sont des péchés, mais que je classe juste comme faiblesse, comme ouais, c'est acceptable. Et du coup, ça reste là. Et puis, ça fait des œufs, ça fait des petits, c'est comme les cafards, c'est comme les saletés comme ça. Et puis, ça se multiplie. Puis, un jour, je m'aperçois qu'il y a un morceau de ma vie qui s'écroule. Et les gens qui sont autour de moi en souffrent. Et je me dis, comment j'ai pu en arriver là? Et là, je réalise, j'ai nourri, entretenu des choses qui étaient mauvaises, mais que je considérais comme ouais, ben, tant que personne ne le sait, ça fait de mal à personne, hein. Et puis ça me fait plaisir, donc je peux l'entretenir, quoi. Mais le jour où ça révèle son vrai visage, c'est trop tard et puis ça fait mal. Mais lorsque la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Le mot confesser, j'ai souvent parlé, hein, qui veut dire homologuer, déclarer conforme à. La seule chose que j'ai à faire pour que Christ m'en débarrasse, c'est de reconnaître que c'est un péché. Et c'est là où souvent j'ai du mal, parce que quand je pêche, je préfère me dire, ah, c'est une erreur. C'est tout le monde le fait. Qui ne l'a pas fait? Quel être humain ne pense pas comme ça? Comme ça ne change rien. Mais tant que je fais ça, la pensée, l'acte, ce qui lui est associé, reste chez moi. S'installe, se développe, fait son nid, et ça corrompt ma façon de voir. Dimanche dernier, on avait vu comment, lorsque je sors Dieu de l'équation de ma vie, tous mes résultats sont faux, et je comprends pas pourquoi ils sont faux, parce que tous mes calculs sont justes, mais il y a un élément au départ du calcul qui est faux. Et je refais l'opération, je la refais, je la refais, ma logique paraît impeccable, mais j'ai toujours faux au bout, parce qu'il y a un élément qui est pas là, hein. Et c'est la même chose, ou plutôt c'est ce principe-là appliqué à cette compréhension. Alors lorsque Paul développe dans ces trois chapitres, comme ça je les aurais fait, hein, que les gens qui sont nés sans la loi sont pécheurs, alors qu'ils ont la nature, la création qui leur explique qui est Dieu, les juifs qui ont la loi et qui savent tout sont pécheurs. Et sa conclusion c'est, nous sommes tous pécheurs. Et lorsque Paul dit Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, c'est pas une formule de fausse humilité. Oh non, vous savez, je suis misérable, Dieu est bon. Non, c'est que Paul, lui, vivait avec une conscience torturée parce qu'il avait tué des gens jour après jour, hein, en pensant faire le bien, en pensant servir Dieu. Et malgré le pardon de Dieu, c'était un être humain comme nous, il se levait tous les jours avec ce poids-là, et puis il devait le remettre à Dieu encore et encore. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Et chaque fois, Dieu lui dit, ben, ma grâce te suffit. Mais Paul avait une compréhension claire de ce qu'était le péché. Parce que dans son cas, lui, le péché, c'était penser que sa façon de penser était la bonne. Paul n'était pas immoral, hein, il ne couchait pas avec toutes les femmes qu'il croisait, il ne volait pas, il ne mentait pas. Il a juste assassiné des dizaines de chrétiens en pensant servir Dieu. Mais son péché, c'était, voilà, je pense que comme moi je pense sans Dieu, c'est la bonne façon de penser. Et ça l'a amené à devenir un assassin. La grâce de Dieu était pour lui, il a été pardonné et puis utilisé par Dieu de façon incroyable. Donc elle est là pour chacun d'entre nous. Mais ma prière ce matin pour moi, après ce que j'ai vécu et puis pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous donne un bon éclairage pour réaliser cette pensée-là, cette habitude-là, cette façon de faire-là. Bah, peut-être que j'y retomberai demain, peut-être 10 fois dans la journée, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre demain. Mais par contre, je refuse de manger avec. C'est-à-dire, je ne veux pas la banaliser en me disant « bon, c'est normal, tout le monde le fait ». Non, c'est une saleté. C'est mauvais, c'est méchant, ça détruit, ça tue des gens ailleurs ou ici, ça fait du mal, ça finira par me faire du mal à moi, de toute façon ça m'en fait déjà, et je ne veux pas l'accepter. Et parce que je suis faible, effectivement, peut-être je vais y retomber dedans, et encore, et c'est triste, et je ne veux pas, mais ça va arriver. Donc c'est pas du tout ni l'idée que si on prenait une bonne décision, on deviendrait des gens bien, faux, mais c'est juste de faire face à ce qui est mal, et que la Bible appelle mal, que Dieu appelle mal, parce que c'est réellement mal, et parce que ça fait du mal, et que ça détruit. Et c'est mieux de comprendre ça le plus vite possible, que d'attendre que ça nous frappe réellement de plein fouet, pour... Mais j'ai fait ça pendant des années, sans réaliser que ça produisait ça sur les gens. Puis maintenant, ça me touche moi, et là, c'est grave. Oui, ça l'a toujours été, c'est juste que jusque-là, c'était pas si désagréable que ça pour toi. Voilà, c'est quand même un message d'espérance et d'espoir. Quand l'écran est sombre, les diamants sont plus brillants. Et encore une fois, on n'a pas noirci pour que la bague paraisse brillante, mais c'est pour qu'on puisse apprécier réellement ce que nous avons et ce que Christ nous donne dans l'Évangile. Alors Seigneur, on te remercie pour ces moments désagréables où tu nous fais prendre conscience de la noirceur, de la méchanceté du mal qui a affecté jusqu'à toi lorsque Christ est mort, qui affecte nos vies, les vies de ceux que nous aimons et qui vraiment détruit. Donne-nous d'avoir une pensée claire et d'avoir l'humilité de reconnaître que nous avons péché lorsque nous avons péché et de se tourner vers toi pour vivre dans la lumière. Merci parce que tu nous pardonnes encore et encore, toujours, autant de fois que c'est nécessaire. Merci pour la grâce, merci pour ton amour, merci pour la réconciliation avec toi, et que nous puissions être réellement touchés et bouleversés par ce que tu as accompli pour nous, Seigneur.